Voix Nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Alain Corbin. Ce soir, histoire des corps et de la sexualité.
Bonsoir Alain Corbin.
Bonsoir.
Nous avons parlé hier de votre travail sur la société terrienne, sur le monde rural, que vous connaissez bien, puisque vous êtes né dans l'Orne en 1936, vous y avez grandi. Vous accompagniez votre père médecin de campagne dans ses visites à domicile, vous observiez ses patients qu'il recevait dans son cabinet installé dans votre maison. Vous nous avez expliqué de quelle façon le bocage peut forger un caractère. Il crée une indépendance d'esprit et une austérité, peut-être moins marquée chez le paysan qui ne vit pas entouré de haies. Ce soir, il sera question de vos nombreux travaux sur le corps et la sexualité. Alors, vous n'avez pas écrit des histoires du taux de fécondation ou de la contraception, mais vous avez travaillé sur l'histoire du désir et du plaisir. Lorsque vous commencez à travailler sur ces sujets, et notamment sur la prostitution, de quelle façon la sexualité était traitée par les autres historiens ?
La sexualité n'était pas traitée à cette époque pratiquement, excepté par les spécialistes de démographie historique, qui évidemment s'intéressaient au taux de fécondité, de natalité et de mortalité d'ailleurs. Et donc, c'était sous cet angle un peu quantitatif que l'histoire, en France, hein, parce que aux États-Unis, il y avait déjà des historiens qui s'intéressaient à la prostitution.
Hein. Bon, mais fin des années 70.
Oui. Oui. En France, c'était vraiment sous l'angle de la démographie historique. Ça avait un avantage pour les historiens, c'est d'être un peu solennel, ou du moins, on ne pouvait pas les attaquer personnellement, parce que la démographie historique, c'est quelque chose d'honnête, en quelque sorte. Voilà. Hein, le taux de fécondité, ça ne trouble personne.
Comment vous vient l'idée de travailler ? Alors, votre livre s'est appelé, il a été publié en 78, Les filles de noces. Comment vous vient l'idée de travailler sur le désir ?
Alors, c'est assez simple, je peux le dire, ça. C'est que lorsque je travaillais sur le Limousin, ma thèse, en fait, s'appelait initialement Limousin migrant, Limousin sédentaire. C'est-à-dire que j'étudiais les 60 000 maçons limousins qui, chaque année sous l'Empire, sous le Second Empire, venaient bâtir Paris. Or, on me disait, en Limousin, dans les textes limousins, qu'ils étaient d'une fidélité irréfragable à leurs femmes restées au pays, parfois pendant plusieurs années, sans les voir. Mais en fait, j'avais remarqué que eux-mêmes habitaient dans des quartiers prostitutionnels, c'est-à-dire soit la cité, soit la rue Mouffetard, etc. Donc, j'étais amené à étudier un peu ça. Et ce qui m'avait frappé, donc, c'est que dans la description des habitats, des mœurs, etc., de la prostitution que je rencontrais par ce biais, il y avait un sujet possible qui n'avait pas été traité, c'est tout simplement l'histoire non seulement de la prostitution, mais ce qui m'intéressait encore davantage, parce que c'était leur cas, c'est la misère sexuelle masculine à ce moment-là, notamment la misère sexuelle masculine de ces ouvriers qui avaient abandonné leurs femmes, qui revenaient théoriquement une saison, mais bien souvent au bout de 2 ou 3 ans. Hein, voilà.
Et dans quelles archives, Alain Corbin, trouvez-vous la preuve de cette misère sexuelle ?
Alors, ça c'est très simple. En ce qui concerne les archives parisiennes et nationales, je viens de le dire, il s'agit de certains quartiers que j'ai pu regarder à propos notamment du choléra, parce que c'était des archives conservées qui n'avaient pas été détruites au moment de la destruction des archives au XIXe siècle. Mais en plus, dans chaque département, dans chaque dépôt d'archives départementales, dans la série M, il y a normalement une ou plusieurs liasses consacrées à la prostitution. Donc, il fallait aller de département en département, ce que j'ai fait, disons pour une dizaine, douzaine, je ne sais plus, de départements. Donc ça donnait une matière extrêmement, extrêmement importante, extrêmement ample en fait. Hein. Donc il ne s'agissait pas seulement de la prostitution à Paris, mais de la prostitution en France. Et plus encore que de la prostitution, la misère sexuelle que cette prostitution révélait.
Et c'était une prostitution de maison close ou une prostitution de rue ?
Alors ça c'est très compliqué parce que au début du 19e siècle, sous le consulat et l'empire, on aimait réglementer. Alors c'était réglementé, notamment à Paris. Hein, la préfecture de police regardait de très près la prostitution et il y avait plusieurs sortes, trois sortes en quelque sorte de prostituées. Tout était théoriquement inscrit à la préfecture de police. Elles devaient être majeures. Elles allaient s'inscrire. Certaines travaillaient en chambre, dans leur chambre, ouvraient leurs fenêtres, appelaient le client théoriquement par la fenêtre. Et ces filles, c'est ce qu'on appelait les filles soumises, c'est-à-dire soumises à la préfecture de police. Et il y avait une seconde catégorie qui était aussi constituée de filles enregistrées. C'était les filles en maison close. Les maisons closes étaient tenues par une tenancière, c'est-à-dire celle qui tenait le livre, parce qu'elle possédait un livre sur lequel était inscrite la totalité des prostituées de sa maison. Elle était responsable. Et toute une série d'injonctions concernait ces maisons. Elle devait être dans certains quartiers, elle devait être allumée avec une lampe pour être reconnaissable. Il ne devait pas y avoir d'encombrement devant, devait pouvoir accéder facilement. Dans les chambres, ce qui se passait devait être surveillé par des sous-maîtresses, c'est-à-dire en plus de la tenancière, il y avait donc des inspectrices, si vous voulez, à son service, des sous-maîtresses. Donc, elle pouvait regarder par la fente, en quelque sorte, des portes, si la sexualité qui se déroulait dans la chambre était une sexualité honnête. Hein, ça, bah, ouais. Et en plus et surtout, tous ces gens étaient soumis, et en particulier la tenancière, étaient soumises à la visite des agents des mœurs, les agents de la préfecture de police, qui, eux, pouvaient rentrer à n'importe quel moment dans la maison close, pour regarder si tout était bien, si le livre était bien tenu, si les chambres étaient conformes au règlement. Tout ça, c'est dérivé du mot réglementarisme. Toutes les trois semaines, les femmes allaient en procession, si je puis dire, au dispensaire pour passer une visite médicale. Parce que un des buts de la réglementation était de lutter contre ce qu'on appelait pas encore la syphilis, parce qu'on ne la connaissait pas, mais la vérole. Hein. Donc il y avait, depuis que Récamier avait inventé l'instrument, une visite des organes génitaux des femmes. Hein. Et donc, si elles étaient malades, elles étaient envoyées à Saint-Lazare, une infirmerie. Si elles ne se sauvaient de la maison, ou si elles ne respectaient pas le règlement, elles allaient aussi à Saint-Lazare, mais à la prison. Donc il y avait un circuit, en quelque sorte, dispensaire, maison close, Saint-Lazare. Voilà. Hein, et puis les filles soumises, mais libres, en quelque sorte, étaient astreintes, elles aussi, un règlement. Je prendrai un exemple, elles devaient toujours sortir en cheveux. C'est-à-dire sans chapeau, parce que
pour les distinguer des femmes
honnêtes, elles ne pouvaient pas sortir après une certaine heure du soir. Je me souviens plus de 19h, je pense à peu près. Et donc il y en avait beaucoup. Et la troisième catégorie, c'était les clandestines, c'est-à-dire celles qui opéraient sans s'être fait inscrire à la préfecture de police. Et ça, c'était terrible, Alors, les agents des mœurs, c'était pour chasser. Elles étaient nombreuses, notamment dans les chantiers de construction aux alentours de la ville. Les plus pauvres, celles qu'on appelait les pierreuses, parce qu'elles étaient, elles étaient dans les pierres, en quelque sorte. Alors, un des grands développements, un des grands phénomènes, si vous voulez, historiques, c'est qu'au cours du 19e siècle, ce règlement est de plus en plus mal, a été de plus en plus mal exécuté, respecté, et que les clandestines ont pris peu à peu le dessus. Toute forme de clandestine, mais ça sera un peu long à énumérer.
Et donc les pratiques ont été moins surveillées aussi.
Ah, puisque, bah bien oui. sûr, bien oui. sûr. C'était, sous le Second Empire, la mode était aux filles de brasserie. Vous voyez, c'était des filles qui servaient de la bière et puis qui montaient dans une petite chambre au-dessus de la brasserie. Je prends cet exemple. Et à la fin du siècle, se développe quelque chose d'autre. Deux choses, d'abord de très grands bordels de luxe, hein, vraiment pour l'aristocratie, avec des décors, avec des vraiment très splendides, si je puis dire. Mais surtout, moi, c'est ce qui m'avait frappé, c'est ce que j'avais essayé de montrer à l'époque, se développe ce qu'on appelle les maisons de rendez-vous. C'est-à-dire, les hommes étaient, les bourgeois surtout, hein, les aristocrates, était désireux d'un simulacre de séduction. Il voulait avoir l'impression de fuir en quelque sorte ces pierreuses ou ces filles des rues, avoir l'impression qu'ils séduisaient un peu. Alors il y a des dames qui organisaient des maisons de rendez-vous et qui proposait à ces messieurs des rendez-vous avec une femme soi-disant honnête, c'est-à-dire une bourgeoise qui voulait s'encanailler ou dont le mari était insuffisant. Ça a été repris dans Belle de jour, je crois, c'est ça le film, mais c'est pour une période très postérieure. Alors, il y avait un salon dans ces maisons, une présentation, on présentait la dame en faisant croire, bien entendu, que c'était une bourgeoise. Et en fait, on n'était pas une. Hein. C'est une nouvelle forme de prostitution, fin de siècle, qui n'a plus rien à voir avec les pierreuses, ni avec les filles de bordel un peu lourdes, en quelque sorte, si je puis dire, que décrivent encore les peintres, hein, encore vers les années 60-70. J'ajouterais qu'il y avait des bordels en province, après Paris. C'était des maisons de prostitution, la maison Tellier, hein, par exemple, de, en passant. C'était, je l'ai fait étudier par un très bon travail, la maison de Château-Gontier, dans la Mayenne. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a tout un livre du docteur Homo, de l'époque, sur la maison de Château-Gontier. Et je termine. Une des choses qui avait frappé ce docteur, c'est les plaintes dans la petite ville de Château-Gontier, parce que c'est pas une grande ville, la Mayenne, c'est que les prostituées apprenaient des formes de caresses, notamment la fellation, hein, que ses clients transposaient dans le lit conjugal. Et alors là, c'était extrêmement perçu comme grave.
Que Alain Corbin, en travaillant sur ce sujet, vous avez lu ce que Freud avait écrit, puisque les périodes se...
Non, parce que Freud, disons, c'est postérieur d'abord. Hein. Oui. Il a été connu en France au début du 20e, en fait, hein, bien qu'il ait produit avant. Mais non, c'était pas mon... Non, moi j'étais plongé dans les archives... Et dans les livres, parce que sur la prostitution à Paris, il y avait toute une série de rapports du docteur ceci, du docteur cela, ou de tel enquêteur. Et en particulier, j'étais parti du plus grand sociologue empirique de l'époque, c'est-à-dire le docteur Parent du Châtelet, qui avait consacré un ouvrage de 2000 pages à la prostitution, parce qu'il s'intéressait à tout ce qui était la physiologie excrémentielle, en quelque sorte, de la ville. Il s'intéressait aux égouts, il vivait dans les égouts, mais il a fait un livre de plusieurs milliers de pages, donc, sur la prostitution.
Vous pensez, Alain Corbin, que cette curiosité pour les corps et aussi les odeurs, la putréfaction, les bas-fonds de l'intérieur, cette curiosité-là, elle vous vient du métier de votre père ?
Non, je veux dire que si j'ai étudié ensuite le miasme et la jonquille, c'est-à-dire ce qui faisait peur, ce qui était puanteur, ce qui était excrémentiel dans la ville, c'est justement parce que j'avais étudié auparavant la prostitution et que dans les documents, j'étais très très frappé par l'insistance de ce thème lorsqu'on parlait des prostituées, des putains. Qui sentent mauvais.
Le thème de la puanteur.
Thème de la puanteur. Et là, j'ai compris que le néo-hippocratisme, c'est-à-dire les théories venant d'Hippocrate et attribuant aux maladies tout ce qui venait du vent et de l'eau, hein, et de la terre, mais du vent, donc était très important et que la putréfaction était beaucoup plus crainte qu'à une époque où on ne croit pas à la contagion, on ne croit pas encore à la contagion. Était avant tout crainte comme vecteur des maladies, en particulier de la peste. Hein. Donc c'était un thème extrêmement prégnant. Je ne pense pas que ce rapport avec ce que j'avais éprouvé dans le cabinet, si vous voulez, ou à proximité du cabinet de mon père. Maintenant, il est peut-être possible que l'intérêt que j'ai porté au corps dérive un peu de la présence de ce cabinet, si vous voulez, parce que mon père, médecin de campagne, recousait. Vous savez, l'hôpital était assez loin. On n'allait pas à l'hôpital, on n'allait pas aux urgences, si vous voulez, comme on l'aurait fait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand les paysans se blessaient avec une serpe, je sais pas, c'est lui, il recousait. Hein. Il était bon, paraît-il, d'ailleurs, pour recoudre. Mais il recousait dans le cabinet, un peu l'odeur d'un peu d'éther, d'oxygéné, etc. Tout ça imprégnait quand même, c'est vrai, le rez-de-chaussée de notre maison.
Alain Corbin, vous avez co-dirigé une histoire de la virilité. Il y a ce livre sur les prostituées, sur la misère sexuelle masculine. L'histoire du genre vous intéresse, mais...
L'histoire de la sexualité et l'histoire de la virilité, beaucoup plus que l'histoire du genre. Je n'ai pas participé. L'histoire des femmes, disons, autour de Michel Perrault, j'ai participé, parfois un peu critique d'ailleurs, mais j'ai participé.
Vous pensez que n'est pas assez souligné la souffrance masculine, voilà. Étant donné tout ce qui pesait sur les épaules d'un homme au 19e.
Oui, alors là, c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser, sous prétexte de plaindre les femmes qui ont vécu, et plaindre justement les femmes qui ont vécu en ce temps, minimiser la misère masculine. Alors, je viens de faire allusion à la misère sexuelle de bien des hommes de ce temps. Ajoutons que la guerre était réservée, à part quelques cantinières, si vous voulez, aux hommes, et que c'est un siècle, malgré tout, hein, de grandes batailles, de grandes guerres, mais surtout, il y a quelque chose qui pesait sur les épaules des hommes, c'était le code de la virilité, c'est-à-dire, sois un homme, hein, depuis la petite enfance. Alors, on a dit que c'était la fabrication du genre, certes, hein, mais pour ceux qui vivaient à ce moment-là, les enfants devaient, ce brave Michel écraser ses enjures sur sa table, par exemple, hein. Il fallait être costaud, fort. Dans les ateliers, on montrait sa force et aussi son, disons, sa force de résister au mal, de pas se plaindre, de quand on était blessé, etc. Donc, il y a un code de la virilité qui touche les enfants, qui touche les militaires, qui touche les ouvriers, et qui touche les bourgeois, et qui se traduit par la nécessité du duel. On ne peut pas refuser le duel.
Pour sauver son honneur.
Tout ça, ça fait beaucoup, hein. Penser qu'aujourd'hui, on n'imaginerait pas comme Floquet ou je ne sais plus, ou Gambetta, pas Gambetta, Clémenceau, etc. C'est des journalistes, c'est des gens qui étaient toujours sur le duel, au duel et qui se faisaient, et même Blum jeune, même Proust, et qui devaient faire ça, et qui étaient souvent blessés et parfois morts. Hein? Floquet, qui était président du conseil, a eu la gorge. Je crois que c'est par Boulanger, je veux pas dire de bêtises, mais par presque tranché, enfin vraiment gravement blessé. On n'imagine plus ça aujourd'hui. Hein. Il faut en tenir compte. Le dernier duel au XXe siècle avec le marquis de Cuevas, etc. C'était un peu de la rigolade, hein. Mais au XIXe, donc à force de plaindre les femmes, on oublie quand même une misère et une difficulté, des choses qui sont sur l'épaule lourdement des hommes, quoi. Voilà ce que j'ai voulu dire.
C'est à cela que se résumaient vos critiques vis-à-vis de l'histoire des femmes.
Ah non, ma critique à l'histoire des femmes, c'était pas une critique, parce que en fait, j'étais d'accord au colloque de Saint-Maximin où il y avait, je crois, 34. Spécialiste de l'histoire des femmes, et nous étions deux, deux ou trois, je ne sais plus, Roger Chartier et puis je ne sais plus qui. Non, ce n'est pas une critique de l'histoire des femmes, c'est de dire que n'oublions pas pour autant la misère, les difficultés de l'homme. Ce n'était pas non plus très drôle. Parce que, si vous voulez, à vouloir trop dire, société patriarcale, la femme est soumise à l'homme, ça, mais c'était pas très drôle, voilà, c'est ça, enfin, très drôle, très, très facile non plus, hein, d'être un homme. L'homme était fait pour être dans la mêlée sociale, hein. Pas être dans la mêlée sociale, c'est pas toujours drôle non plus. Alors, pas toujours facile, je veux dire, non plus. Donc, c'est ça que je me suis senti, contenté de dire en partant de cette misère sexuelle à propos de la prostitution, mais ce n'est pas du tout une critique de l'histoire des femmes telle que Michel Perrault l'a impulsée, telle que évidemment bien beaucoup de ses disciples, si je puis dire, ont mené à bien. Non, mené à bien. Mais c'est Là, je vais être clair, quoi. Alors, ça veut pas dire pour autant que l'histoire du genre me paraît ajouter énormément à cette histoire des femmes, telle que l'a faite Michel Perrault, hein. Moi, on s'est intéressé avec Georges Vigarello, par exemple, à l'histoire de la virilité. C'est un problème, ça, parce que le mot virilité dépasse, enfin, ne correspond pas très bien, ne rentre pas très bien dans les cases de l'histoire du genre, si vous voulez. Le mot masculinité est très tardif. En France, il doit être des années 70, quelque chose comme ça, hein, dans les dictionnaires. Alors, c'est masculinité n'est pas virilité, parce que il y a des femmes viriles aussi au XIXe siècle. Donc, vous voyez, c'est très compliqué.
Et comment Michel Perrault a réagi à ce que vous dites, à votre bémol sur...
J'ai toujours été, j'ai connu très, très tôt, lorsque je préparais ce qu'on appelait mon diplôme d'études supérieures en 1956, hein, j'ai toujours vu depuis. Donc, ça fait déjà un certain temps. Je crois qu'elle-même n'a pas été, je voudrais pas parler en son nom, elle m'a posé assez souvent cette question du genre, ça l'a travaillé aussi, c'est comme pour Mona Ozouf, hein, en ce qui concerne, je veux dire, Mona Ozouf, je pense que ce sont des historiennes qui sont intéressées à ce sujet, mais en étant peut-être moins militantes, dures, quoi, dans ce domaine, hein, dans ce domaine. Mais, en ce qui concerne l'homosexualité, elle a dirigé des travaux sur l'homosexualité féminine. J'ai même participé parfois à certains jurys. Et donc, il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là, dans la sphère de l'histoire des femmes, telle que la pratique Michel Perrault, mais je ne voudrais pas parler en son nom.
Votre livre « Les filles de noces » sort en 78 et « La volonté de savoir » de Foucault était sorti en 76.
Oui, ça je l'ai lu. Je n'étais pas un grand foucauldien, je ne connaissais pas très très bien l'œuvre de Michel Foucault, sauf à l'exception de deux livres, celui dont vous parlez, et puis aussi « La naissance de la clinique », qui m'a beaucoup servi par la suite, mais c'est tout.
Et avez-vous, Alain Corbin, rencontré Bourdieu ?
Oui, je l'ai croisé une fois, je me souviens, dans un jury de thèse, deux ou trois fois dans un colloque, mais je n'étais pas un disciple, si vous voulez, parce qu'il y avait des disciples de tout près dans mon entourage universitaire. J'avais lu et me suis inspiré de la distinction, parce que, au fond, dans le miasme et la jonquille, quand je dis que les élites voulaient absolument se distancier du peuple, c'est-à-dire ne plus utiliser des parfums forts, ne pas sentir, mais tout à fait dans des parfums subtils qui leur permettaient de se distinguer. Il me semble que ça, c'est un peu bourdieuisant, si vous me permettez ce néologisme.
En vous lisant, Alain Corbin, j'étais frappée par la récurrence du mot anxiété.
Ah bon ?
Oui. Alors, anxiété face aux maladies vénériennes, face à
ça,
la
sûr.
Tuberculose.
Oh là, si vous lisez les écrivains du 19e siècle masculin, vous verriez comment ils étaient fort anxieux.
Et vous citez aussi Musset, enfin, vous dites que Musset remarquait que la force nerveuse était en train de l'emporter dans le premier 19e siècle.
Oui, c'est lié aussi au mal du siècle, etc. Oui, c'est... Mais pour revenir à la crainte de la vérole, puisque quand on lit les correspondances de Mérimée et de Stendhal, par exemple, de Gautier, c'est fou, la présence des chancres vénériens. C'est dans leurs lettres. Lorsqu'ils voyagent, ils s'indiquent quelles sont les bonnes maisons de prostitution et les moins dangereuses.
Quel fut l'accueil des filles de noces ?
Alors, l'accueil des filles de noces a été assez, partagé. Mais dans le milieu universitaire, ça a été assez bien accueilli, avec quelques petits sourires quand même. Je me souviens d'une réunion des professeurs d'histoire, parce qu'il y a une association qui se réunit chaque année. Et quand j'étais venu à cette année-là, à cette... réunion, j'ai vu quelques petits sourires. Voilà. Ben, il faut dire que c'était en ce temps, on aimait beaucoup la respectabilité de la recherche, et ça pouvait ne pas paraître très respectable. J'ai des collègues d'histoire littéraire qui travaillaient sur le marquis de Sade, par exemple. C'était pas bien vu non plus. C'était le même genre de choses.
Merci Alain Corbin. Merci beaucoup. À demain soir.
Merci de votre invitation.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Alain Corbin. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, prise de son Yann Frécy. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.